On a jusqu'à présent toujours vu l'océan comme un réservoir infini qui avait des quantités d'eau faramineuse par rapport à nous, individus. Ce qu'il faut bien voir, c'est que du fait des courants et des échanges, il n'y a plus d'endroit de l'océan qui est un peu isolé. C'est-à-dire qu'on trouve des sacs plastiques sur tous les atolls de la planète, même au fond à 5000 mètres.
Pour télécharger les chroniques et dossiers d'Impatience, rendez-vous sur notre page d'accueil impatience.rsr.ch.
Impatience se penche sur une carte physico-chimique. Physico-chimique, une carte des mers et des océans, des lacs aussi, à quoi ça ressemble. Je suis très intimidée, j'ai trois invités pour m'en parler. Andrea Desbonneaux, Grégory Giuliani, vous êtes toutes deux collaborateurs scientifiques au GRID, c'est-à-dire aux bases de données mondiales sur l'environnement. Et vous êtes venus avec votre prof, pour pas faire d'erreur, Jean-Michel Jacquet. Vous enseignez au département des sciences de la Terre et de l'environnement à l'Université de Genève. Bienvenue à vous trois. Déjà, vous allez m'expliquer ce mot. Que signifie physico-chimique lorsqu'on parle de mer, d'océan ou de lac?
Donc, c'est une carte qui représente les conditions physiques. Par exemple, la mesure de la température d'un cours d'eau, d'un lac ou d'un océan, en l'occurrence. Et chimique, donc la salinité, le taux de phosphore, le taux d'oxygène qu'il y a dans l'eau, simplement.
Alors, vous avez établi, vous allez m'expliquer ce projet, un Genome Map Server, c'est-à-dire qu'il y a un site qui existe aujourd'hui où vous avez collecté toutes les données mondiales que nous avons à disposition à ce jour, où on peut aller cliquer sur un lieu et savoir à 0 mètre ou à moins 5500 mètres la composition de l'eau. C'est bien cela?
J'aimerais bien pouvoir avoir collecté toutes les données mondiales. Malheureusement, je pense que c'est une tâche qui n'est pas possible parce qu'il y en a qui sont produits en ce moment même. Il y a quelqu'un qui est en train de faire des mesures, de collecter des données, d'incrémenter la base des données mondiales. Donc, on a une certaine partie des données mondiales. Et l'autre point de départ, c'était de pouvoir savoir n'importe où dans l'océan. Donc, je me retrouve à un certain endroit. Et j'aimerais bien savoir quelles sont les caractéristiques physico-chimiques du point de l'eau où je me retrouve, dans les trois dimensions. Donc, je parlais de l'espace, mais aussi les niveaux de la profondeur. Et donc, tout ça en interrogeant cette base de données que nous avons constituée.
Donc, avec cette base de données, on a un vocabulaire. On sait que l'eau a telle ou telle qualité à tel ou tel endroit. Qu'est-ce que ces mots, ce vocabulaire nous racontent ? Professeur.
Alors, ils nous disent, mais d'une manière détournée, quel est, en somme, l'état de santé de l'océan. En particulier, est-ce que l'océan fonctionne normalement, comme il l'a fait autrefois, en l'absence de l'influence de l'homme? Est-ce que cet océan peut abriter la vie comme il le devrait? Tout cela, on essaye de l'exprimer grâce à ces paramètres physico-chimiques.
Mais quand vous nous dites « est-ce qu'il accueille la vie de la même façon qu'autrefois », c'est-à-dire que vous avez des données qui sont anciennes, suffisamment anciennes pour qu'on puisse voir la différence ?
Oui, oui. Donc en plus des trois dimensions de l'espace, il y en a une quatrième qui est la dimension temps. Et nous sommes allés à la recherche de données anciennes, à peu près jusqu'à 1900, je crois, qui nous donnent une idée de l'évolution des paramètres physico-chimiques de l'océan dans le temps.
Alors, par exemple, si je clique sur un lieu, sur cette grande carte que j'ai à disposition, je vais avoir plein de chiffres qui viennent. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que je vais regarder pour me dire cette eau est bonne, cette eau est saine, c'est un lieu à préserver? Quels sont les indicateurs? C'est la salinité, c'est la température, les virus, les bactéries?
Ça, malheureusement, virus et bactéries, on n'a pas de données spécifiques pour cela. Mais disons, prenons par exemple la quantité de phosphate. Donc le phosphate est un indicateur de la santé d'un corps aquatique. C'est particulièrement vrai pour les lacs. Le Léman, qui est tout près de nous, souffrait de problèmes de santé parce qu'il y avait trop de phosphate dans le Léman. Dans l'océan, c'est un peu la même chose. Il y a certaines zones où la quantité de phosphate apportée par les activités humaines est trop élevée et le système est en déséquilibre. Donc le phosphate est un indicateur. Un autre indicateur, c'est l'oxygène. Si on s'aperçoit qu'il y a un déficit d'oxygène à certaines profondeurs, c'est un signal d'alarme. Ça veut dire que le système ne fonctionne pas comme il devrait.
Votre verdict, lorsque vous êtes allé consulter cette carte, comment se portent nos eaux?
Donc, il y a des endroits au milieu de l'océan Atlantique, au milieu de l'océan Pacifique, où, en regardant les données chronologiques, on ne voit pas de différence. Il n'y a pas eu d'évolution significative. Par contre, d'autres endroits plus proches des côtes, on s'aperçoit qu'au cours du temps, il y a eu une évolution dans la teneur en phosphate, par exemple. Et également, un autre paramètre qui est très intéressant, c'est la quantité de chlorophylle qui se trouve dans l'eau. Donc la chlorophylle est un pigment qui se trouve à l'intérieur du plancton végétal. Et ce plancton végétal est en somme à la base de la chaîne alimentaire. Il se nourrit en quelque sorte de soleil, de lumière, du gaz carbonique de l'atmosphère, et puis justement du phosphate, qui est un peu comme une vitamine pour lui. Et ces algues, comme on les appelle, microscopiques, se développent et sont ensuite consommées par des crustacés qui sont eux-mêmes consommés par des poissons. Donc c'est vraiment la base de la chaîne alimentaire.
Donc ce que vous nous offrez aujourd'hui, c'est un poste d'observation.
C'est un poste d'observation qui est basé sur des données vraiment des bases, en fait. Sur ces données-là, pour avoir des réponses un peu plus claires, il faudrait faire des analyses supplémentaires. Donc c'est un outil qui permet de faire des recherches supplémentaires. Disons, l'utilisateur commun, il peut bien avoir des informations, mais de là à dire, voilà, l'état de santé à cet point est critique ou pas, il faut quand même faire des analyses supplémentaires. C'est vraiment un point de départ.
Et forcément, vous visez un utilisateur politique ?
Tout à fait. À la fin, je dirais, l'utilisateur ultime sera ceux qui vont prendre des décisions, somme toute. Et justement, cet outil qu'on a mis en place, on voit une des étapes probable qu'on pourrait imaginer, justement, c'est de faire un peu un outil d'aide à la décision pour, par exemple, le WWF est en train de pousser l'ONU à protéger 40% de la surface des eaux mondiales. Et grâce aux données qu'on a récoltées, grâce à l'application qu'on a là, on pourrait très bien imaginer une étape ultérieure dans laquelle on pourrait développer des espèces de réserves naturelles, voire quantifier, si on veut, cette eau, donner une typologie de ces eaux et de pouvoir voir les différents types d'eau qu'on a à travers le monde et de les protéger, somme toute. Donc ça pourrait être un outil qui pourrait amener à ce genre de réflexion-là aussi.
En fait, ce n'est pas un point d'arrivée, c'est un point de départ vers quelque chose de nouveau.
Autre question toute pratique, comment fait-on pour aller collecter de l'eau au milieu de l'océan à moins 5000 mètres ?
Donc on prend un bateau océanographique qui coûte à environ 30 000 francs par jour. Vous vous déplacez jusqu'au point voulu et vous descendez des récipients qui vous permettent de prélever à certaines profondeurs. Donc ça, c'est la méthode traditionnelle. Maintenant, si vous voulez savoir, par exemple, la quantité de chlorophylle ou de plancton qu'il y a dans l'eau, vous utilisez un satellite. Et c'est ce que nous avons fait. Donc toutes nos données de chlorophylle de la base de données sont récoltées grâce à des satellites particuliers, donc qui vous permettent chaque jour, littéralement, de suivre l'évolution du système.
Andrea Di Bono.
Juste dire qu'en fait, la différence entre les données recueillies par satellite et celles in situ, comme on dit, c'est que les satellites, ils ne nous permettent pas d'avoir la troisième dimension. Donc, si on veut savoir la température de l'eau, avec les satellites, on peut le faire, mais on aura juste la surface. Par contre, vraiment, pour avoir la troisième dimension, il faut passer par les données recueillies durant les campagnes océanographiques.
Par rapport à Google Océan, quelle est la différence ?
C'est nous qui l'avons fait.
Bon, la différence, c'est que...
Vous étiez les premiers.
Voilà. Quand le projet a démarré en 2005, hein, ben Google Océan n'existait pas, en fait. Probablement, eux, ils pensaient déjà de faire quelque chose, mais quand même, nous, on n'était pas au courant. Et puis, justement, je pense que vraiment, la grande différence, c'est que nous connaissons la structure, les moteurs, comment ça marche, et nous pouvons faire toutes les modifications que nous voulons, et ça laisse une liberté nettement majeure à nous, pour lui demander ce qu'on veut, en fait, extraire les données qu'on veut.
Et vous étiez les premiers, je vous vois très fiers, et ça s'est passé en Suisse. Dernière question à vous, professeur Jean-Michel Jacquet. Est-ce que l'eau meurt ?
L'eau ne peut pas mourir, parce que donc, une créature vivante, c'est-à-dire un organisme, peut mourir. Mais l'eau, c'est H2O, plus toute une série de sels dissous, plus évidemment des organismes à l'intérieur. Donc on peut imaginer que... Ce que je disais avant sur l'oxygène, si vous avez un déficit d'oxygène à une certaine profondeur, la tendance, c'est de dire l'eau est morte. Ou comme on parlait à un moment donné, on disait l'élément est mort. C'est une manière de parler qui n'est pas tout à fait correcte. Très souvent, on peut dire que les conditions du milieu sont telles qu'elles ne sont plus propres à héberger la vie d'une manière normale et durable. Donc, c'est la vie qui peut mourir. Ce n'est pas véritablement le réceptacle de la vie qui est l'eau.
Et par contre, on peut guérir une eau comme pour le léman, par exemple.
Alors oui, on peut simplement faire en sorte que l'équilibre des substances dissoutes qui sont dans l'eau, plus toute la chaîne alimentaire du plancton végétal, du plancton animal, des poissons, que ce système-là soit dans un bon équilibre. C'est-à-dire que chacun des maillons de cette chaîne puisse vivre de manière normale, consommer quelque chose, être consommé par quelque chose d'autre, et que le système puisse durer sans que tout d'un coup, les propriétés chimiques, par exemple, changent de telle sorte que la vie n'y soit plus possible. Donc, un moyen très simple, en ce qui concerne les lacs, par exemple, c'est d'éviter d'y mettre ou d'y déposer des substances qui seraient nocives, soit trop de phosphate, donc trop d'algues, plus assez d'oxygène, ou toutes les substances chimiques comme des médicaments, des hormones, qui peuvent avoir un effet très néfaste sur la vie qui est dans le lac. Donc nous avons la possibilité de tenter de préserver l'équilibre naturel.
Grégory Giuliani, je me mets devant mon ordinateur, qu'est-ce que je tape pour arriver au bon endroit sur le Genome Map Server?
Alors il faut taper metafunctions, alors bon, c'est en anglais, .grid.unep.ch. /mapserver. Alors c'est vrai que l'URL est un petit peu compliquée. Sinon, le moyen le plus simple, c'est d'aller directement sur le site du GRID, qui est www.grid.unep.ch. Et sur la première page, il y a un lien qui pointe vers cette application. Et les gens pourront jouer avec.
Et c'est en lien sur le nôtre de site impatience.rsr.ch. C'est vachement plus simple.
Impatience. Nancy Ypsilantis.